Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet qui va nous réveiller tous, puisque nous allons parler de franc-maçonnerie et psychologie. Et alors, évidemment, ce sujet qui a généré beaucoup d'articles divers et variés, nous avons souhaité inviter, évidemment, quelqu'un qui est à la fois un franc-maçon et un psychanalyste. Et donc, Frédéric Pierre-Izoz, merci d'être là en ce dimanche matin. Donc, nous allons échanger sur ces deux sujets. Pour certains, ils ont beaucoup de points communs, et la démarche initiatique serait de même composante qu'une analyse. Alors, je crois qu'il faut que je dise dès le début de cette émission notre conclusion, c'est que ce sont deux choses assez différentes. Et merci Frédéric Pierre, parce que ensemble nous allons voir quels sont quand même les points de convergence et les points de divergence. Alors, peut-être tout de suite, vous avez un premier mot à nous dire sur la différence de fond.
Oui, bonjour Perry et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'il est coutume souvent de rapprocher ces deux démarches. Pourtant, il y a une différence fondamentale qui est celle de frapper à la porte. Lorsque celui que nous appelons le profane vient frapper à la porte de notre temple, il vient y chercher l'initiation et il vient pénétrer dans des mystères qu'il imagine peut-être confusément, qu'il imagine intuitivement ou intellectuellement comme étant de l'ordre d'une amélioration spirituelle, intellectuelle de lui-même. En revanche, lorsque le patient vient frapper de sa propre liberté à ma porte, il vient avant tout chercher une diminution de la souffrance qu'il ressent. Il se sent désorienté, mais non pas au sens spirituel, il se sent désorienté, c'est-à-dire dans l'incapacité de faire des choix qui lui permettraient de vivre, sinon harmonieusement, du moins tranquillement au quotidien. Je crois qu'il y a une vraie différence, c'est comprendre que la souffrance dont il est question chez le patient est une souffrance qui l'enchaîne et qui l'entrave dans sa vie au jour le jour. La souffrance éventuelle que peut ressentir le profane avant de rentrer en maçonnerie, c'est une souffrance qui correspondrait plus à une interrogation sur ce qu'il en est d'une vie métaphysique. Je crois que ce point est vraiment le point fondamental de divergence au fond des deux pratiques. On ne fera pas de la même façon.
Il n'y a peut-être pas forcément un mal-être de même nature dans l'une et l'autre démarche.
Je voudrais rassurer tous ceux qui sont profanes et qui nous écoutent. Il n'y a pas besoin d'être malheureux pour devenir maçon. Voilà. On peut être bien déjà et être beaucoup mieux ensuite. La maçonnerie nous propose un ensemble de légendes, une démarche en tout cas, qui nous appartient, qui va nous appartenir et qui va nous permettre, je crois très profondément, et là je vais restituer ce qu'il en est de mon vécu, qui va nous permettre de continuer à vivre peut-être de temps en temps sous l'aune du merveilleux, en tout cas de reconnaître cette joie enfantine qu'on pouvait avoir petit. Et je crois que rentrer heureux, ou rentrer content pour finir heureux, si tant est qu'on puisse finir, c'est une belle promesse, c'est une bonne nouvelle. Le patient, lui, il veut quand même essentiellement passer de la souffrance névrotique à la souffrance et être en capacité de pouvoir sortir de ses chaînes. Je lui souhaite aussi d'être heureux quand même, je tiens à le préciser.
Ça n'est pas incompatible. Les deux cherchent quand même à mieux se connaître. Je parlais tout à l'heure du mal-être. Alors, on a systématiquement dans nos loges cette phrase « connais-toi toi-même ». Quand on dit « connais-toi toi-même », de quel toi, enfin de quel moi, de qui parlons-nous?
C'est une très bonne question, ça. C'est vrai, Perry, merci de la poser. C'est vrai que ce « connais-toi toi-même » que connaissent d'ailleurs en France au moins, tous les étudiants des élèves de terminale, puisqu'on attribue à Socrate qui aurait repris donc cette phrase gravée au frontispice du temple de Delphes dédié à Apollon. Se connais-toi toi-même, chez nous en maçonnerie, je crois qu'il nous renvoie à l'idée d'un moi en nous, de quelque chose de relativement indéfinissable qui serait ce que nous avons en propre, ce que nous ne connaissons pas, mais qui nous définit au-delà de notre nom, de notre identité contingente. Il y a un très beau koan japonais qui dit « Quel est ton visage avant ta naissance ?» Et j'ai toujours pensé que le toi du « connais-toi toi-même » en initiation correspondrait à ça. Qui sommes-nous lorsque nous enlevons notre identité? Et je crois qu'on apprend à le trouver au contact des autres. Par contre, effectivement, « se connais-toi toi-même » est valable aussi en préambule de la démarche analytique, mais c'est se connaître le soi que nous sommes lorsque nous serions délivrés des chaînes de nos parents, des chaînes de la société, des chaînes peut-être de nos propres traumatismes. Ce n'est effectivement pas le même toi. Il y en a un qui va nous permettre d'accéder à un état universel. C'est, je crois, le toit maçonnique, singularité de ce que nous sommes, dans l'universalité du collectif. Et puis l'autre, ça va être le toit du petit qui va se reconstruire, de celui qui demande à vivre dans une démarche adulte.
Alors, dans les différentes interprétations du connais-toi toi-même, il y en avait celle de Platon qui disait finalement, ça ne voulait pas dire autre chose que « sois tempéré ». Alors, c'est aussi un distinguo que l'on peut faire entre la démarche d'analyse et puis une démarche initiatique. Le franc-maçon, il cherche à être le plus souvent possible tempéré. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il cherche à vaincre ses passions. Ce n'est peut-être pas le cas dans une analyse. Ses passions doivent peut-être sortir.
Alors, je crois que le maçon, il a vocation à maîtriser ses passions. À titre personnel, je pense qu'il va les maîtriser. Les vaincre, c'est peut-être autre chose. En tout cas, on lui souhaite de pouvoir en tirer la substantifique moelle. Le patient, lui, effectivement, nous ne sommes pas dans le domaine de la passion. Nous sommes vraiment en analyse dans le domaine de l'enchaînement à la névrose. Je vais vous donner une image qui est extrêmement simple. Je dis souvent qu'une éducation, pour reprendre le mot que Camus attribuait lui-même à son propre père, c'est de faire en sorte qu'un homme, ça s'empêche, un homme, ça se tient, que nous tenions, en fait, face à nos pulsions, face à ce qui nous empêcherait d'avoir un rapport à l'autre. Et puis moi, je soigne ce qui déborde. Voilà, je soigne ce qui n'arrive pas à se tenir. Le maçon, lui, n'en est pas là. Il ne vient pas soigner ou arranger ce qui déborde. Il vient bien plutôt vaincre ce qui l'empêche d'avoir accès à lui-même. Je crois que la différence est profonde. Puis en maçonnerie, il y a un très fort respect de la collectivité. Nous sommes face à l'autre, nous regardons l'autre, nous sommes plusieurs. La dimension individuelle est prégnante. Nous rentrons en fraternité, dans un ordre fraternel, là où le patient, lui, n'est en face de lui, au mieux le visage bienveillant, mais un miroir dur du psychanalyste, et au pire le mur ou le tableau que le psy a accroché face au divan. Je crois qu'il y a cette différence d'émotion est quand même relativement importante.
Donc Socrate, lui, quand il dit qu'il faut prendre connaissance de soi, c'est prendre connaissance de sa propre mesure. Comment y parvenir? Comment y parvenir dans l'une et l'autre démarche? Peut-on déjà prendre conscience de sa propre mesure, même en maçonnerie?
Est-ce que c'est possible? Là, on est vraiment dans l'idéal maçonnique. Est-ce qu'on peut prendre connaissance de sa propre mesure? Mais je trouve que ça m'emmène à titre personnel sur d'autres chemins, qui sont les chemins spécifiques justement du rite écossais ancien accepté tel qu'on le pratique à la Grande Loge de France, puisque nous avons des outils à notre disposition qui ne sont pas que nous-mêmes, contrairement à la psychanalyse où les outils à disposition sont nous-mêmes et il y a un analysé et un analysant. On peut se référer à ce verset de l'Ancien Testament, du volume de la Voix Sacrée, lorsqu'il est ouvert en loge avec l'équerre et le compas, qui nous dit « il a mis les poids, les nombres et les mesures » et où effectivement, d'emblée, on entend intuitivement que la mesure, ce serait prendre conscience de ce que nous mesurons, peut-être d'une mesure singulière et particulière qui est la nôtre, une invitation à comprendre que chacun, dans ce jardin, par exemple, que peut être le monde, nous avons vocation à nous mesurer les uns les autres, non pas pour être dans un système de concours ou de performance, mais dans un système d'harmonisation de ce monde dans lequel nous arrivons. Chaque fois que quelqu'un arrive, il y a un peu de chaos qui arrive, il faut nous ordonner de nouveau. Nous sommes les mesures douces et délicates des tempéraments des autres, des ponction des autres, nous composons avec le réel. Le patient, lui, en psychanalyse, n'a pas vocation à entendre la mesure de la même façon. Il apprend à mesurer à l'aune de son propre désir ce qu'il en est de sa singularité. Il apprend à se poser la question de savoir qu'en est-il de mon plaisir, de mon égoïsme, de mon désir, de ma propre névrose. Il a pour vocation à se mesurer ensuite au monde et non pas aux autres, c'est-à-dire à sortir du cabinet en étant libre, libre d'enfin aller peut-être un jour frapper à la porte de notre temple pour se mesurer à une nouvelle fraternité.
Donc les maçons, comme Montaigne, ils apprennent à frotter leur cervelle à celle des autres, donc c'est évidemment une démarche...
Et leur cœur,
certainement, mais Montaigne avait dit cervelle, ouais, pardon. C'est évidemment une démarche personnelle dans un groupe, à la différence de l'analyse, qui est une démarche personnelle en face à face avec celui qui le soigne.
Oui, en face à face avec soi-même. L'analyse est dure, car elle a vocation, en fait, le psychanalyste a vocation à s'effacer. Il a vocation à être outil, à être miroir, à être proposition d'interprétation et de réécriture face au patient, de ce que le patient lui livre comme matériel. Au fond, il y a une très grande différence. La rencontre avec le frère, ou la rencontre avec la sœur et le frère, pour ceux qui travaillent dans des obédiences mixtes, a vocation à nous permettre de rencontrer un autre lui-même. Nous sommes tous des qui nous sommes, et c'est le respect absolu, cette tolérance absolue de la différence de l'autre qui va nous permettre de mieux travailler. Là où en psychanalyse, il n'y a pas deux altérités. Il y en a un toujours au centre, celui qui parle, et le psychanalyste lui s'écoute. Mes patients ne me connaîtront jamais, Ils ne sauront jamais quel homme je peux être et je n'ai pas à leur livrer, à leur imposer un rapport à la fraternité. C'est aussi là une différence fondamentale. Nous sommes seuls lorsque nous sommes sur le divan, complètement seuls, ce que nous ne sommes pas en loge.
Alors nous avions fait le mois dernier une émission sur la musique où justement on disait que la musique est un élément important pour créer de l'harmonie entre tous les frères de la loge lors des tenues. Donc c'est comme ça que nous appelons nos réunions. Précisément dans l'analyse, il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a... si j'ose dire, un malade ou quelqu'un qui veut se soigner et un praticien qui va l'aider à sortir de ses souffrances. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. En loge, nous avons plusieurs intermédiaires, dont évidemment le rituel en tant que tel, les outils qui sont à l'intérieur de ce rituel et la musique. Autre différence.
Alors, l'autre différence qu'on peut avoir, effectivement, c'est cette question de la triangularisation et de la médiation. Nous n'avons peut-être pas de musique, mais nous avons en analyse un arrière-plan. Nous essayons d'écouter ce qui s'est passé, nous essayons d'ordonner la confusion de ce que le patient peut produire, nous essayons de mettre en pleine lumière, au fond, l'histoire qu'il a pu vivre. Alors que il me semble que l'événement maçonnique, si on peut parler en fait d'événement quasiment au sens phénoménologique de ce qui se passe en loge, lui a vocation à nous parler d'un futur, d'une espérance. Cette espérance, c'est pas « je vais devenir libéré de mes propres chaînes », cette espérance, c'est « il y a un monde nouveau qui va s'ouvrir à moi, un monde dans lequel, en advenant à moi-même, je ferai advenir le monde. » Et puis, il y a quand même un point qui est important pour moi. Il n'y a pas que le rituel, il n'y a pas que la musique des cœurs qui battent à l'unisson, hein, pour reprendre une image qui est souvent la nôtre. Il n'y a pas que ces cervelles qui se frottent et qui se frottent au point de s'oublier pour s'ouvrir à eux-mêmes. Il y a cette nécessité d'avoir une vocation spirituelle.
Alors ça, c'est une différence, je suppose, fondamentale. C'est que nous ouvrons nos travaux, nous disons, à la gloire du grand architecte de l'univers. Chacun, croyant ou non croyant, pourra y associer un dieu d'une religion révélée ou pas. En tout cas, nous parlons du grand architecte de l'univers, donc c'est-à-dire une démarche spirituelle. Il n'en est pas question pour l'analyse.
Alors, c'est une très très bonne remarque. Il faut bien reconnaître que en maçonnerie, comme en psychanalyse, la question de Dieu heurte les psys et les adeptes de façon plus radicale. Je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler, même si la figure de la divinité peut réapparaître ou de la spiritualité à travers des psychanalystes comme Marie Balmary, de Freud jusqu'à Dieu. Longtemps, Dieu n'a été qu'un totem, au mieux qu'on refoulait de l'autre côté, et la spiritualité n'était une question qui n'était pas posée. Et c'est vrai que jamais le grand architecte, une représentation, ne va advenir comme étant un acte nécessaire à la psychanalyse. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous rentrons au rite écossais ancien accepté, nous certifions, nous témoignons de notre volonté, hein, sinon d'avoir déjà, mais en tout cas de trouver en nous une capacité de représentation d'un souffle, d'un père, d'un dieu, d'un événement, d'un principe créateur, nous disons au rite écossais ancien accepté, sans qu'il ne soit la figure d'un dieu révélé. Bien évidemment, l'analyse s'ouvre aux athées indécrottables et indéfectibles, comme au dernier des religieux. Nous ne posons pas cette question-là. J'incline pour ma part à croire que la spiritualité, c'est l'exercice de deux personnes qui, entre elles, vont définir une espérance. Il y en a peut-être une en psychanalyse, mais là où la psychanalyse s'adresse à l'individu, nous, les maçons, nous nous adressons à une dimension qualitative différente, c'est celle de la fraternité, et de croire que cette fraternité, c'est une unité. Et que c'est à travers cette unité que nous allons pouvoir devenir qui nous sommes.
Merci. Il me reste à poser une dernière petite question. Je voudrais revenir sur individu-groupe. Peut-on faire de la franc-maçonnerie tout seul dans son coin ? Vraisemblablement pas. Pourrait-on s'absenter de temps en temps ? Sûrement pas. De la même façon, je suppose que dans une analyse, la fréquence est obligatoire. J'ose pas dire qu'il faut payer, ne parlons pas d'argent, mais encore qu'en franc-maçonnerie, il faille payer aussi sa cotisation. Enfin, il y a quelques... Pardon pour ces détails un peu pratiques, mais l'assiduité, la présence avec les autres, ça donne quelques obligations. Il y a quand même encore là aussi quelques différences.
Je crois qu'il y a une humilité. Au fond, cette question-là, elle est importante, mais elle nous parle peu de la psychanalyse, elle nous parle peu de la maçonnerie. Elle nous parle de la façon dont nous fonctionnons. C'est la même chose, vous recevriez ici un athlète de haut niveau qui exhorterait les nouveaux praticiens de l'été, les nouveaux vacanciers estivaux à faire du sport, qui vous dirait qu'il faut être assidu. C'est la même chose, au fond, pour faire du jogging, pour courir 40 km, il faut en courir 200. Pour faire de la maçonnerie, il faut être assidu pour que nos mécanismes de répétition puissent s'imprégner de la pratique que nous faisons. Pour faire de la psychanalyse, c'est la même chose. Le distinguo, pour moi, là, n'est pas dans la question de l'assiduité, il est bien plutôt dans la question de la collectivité. Un dernier point. soins. Il faut bien évidemment payer son psy à chaque séance, c'est important, et assiduité et règlement sont les deux colonnes, je voudrais dire, de la maçonnerie et de la psychanalyse. Non, ce qui est important, c'est de bien comprendre que en maçonnerie, comme en psychanalyse, c'est la répétition de cet événement étrange qui est d'une part le fait d'être sur le divan, de l'autre côté d'être sur les colonnes, qui va nous permettre peu à peu de faire advenir en nous celui qui d'un coup va être en bonne santé, le patient qui va se résoudre à ne plus être malade, comme bientôt va advenir en nous le frère, celui qui va prendre conscience qu'il n'existe que par et pour les autres. Donc c'est effectivement la répétition volontaire qui va nous faire naître à ce que nous sommes.
Alors dans cette répétition, nous disons que nous croyons nous à la perfectibilité de l'homme, donc ça veut dire qu'on va se perfectionner, ça veut dire qu'on va se transformer, j'ose pas dire se métamorphoser, comme disait Pic de la Mirandole, les humanistes de la Renaissance, mais donc il y a une modification. Cette modification, elle vient finalement de soi-même et par les autres. Y a-t-il la même démarche dans une analyse ?
Il doit y avoir en analyse une modification. Il doit y avoir une modification dans la mesure où la prise de conscience de ce que nous étions avant, lorsque nous étions soumis en fait à ce qu'on va dire l'influence des autres. Je sais que le terme de névrose n'est plus trop utilisé, mais j'appartiens on va dire à une ancienne génération et je demanderai aux auditeurs psychiatres et psychanalystes modernes de bien vouloir me pardonner. Mais lorsque nous nous libérons, nous avons vocation à changer notre rapport au monde, ne serait-ce qu'inconsciemment. Il ne s'agit pas en analyse un avènement, mais de pouvoir devenir libre. Cette liberté nouvelle, elle nous rend seuls. Elle nous rend seuls et doublement seuls dans la mesure où le patient sortant de la psychanalyse, à mon avis, a vocation à intégrer un ordre traditionnel fondé sur la fraternité sans faire de prosélytisme ou en tout cas de se tourner vers les collectivités pour pouvoir vivre une vie spirituelle.
Ben, merci. J'espère que tous les auditeurs seront convaincus par cette démarche. Et bien sûr, il me reste à remercier Alain Joubert à la technique et Danny Journeau.